Avant de laisser les enfants descendre, j'aimerais prier. Levons-nous un instant. On va remettre les enfants entre les mains du Seigneur et aussi remercier le Seigneur pour les offrandes qui sont accumulées derrière dans le tronc et qui des fois passent un peu discret. Prions ensemble. Père Céleste, on veut te remercier pour la vie, la santé, te remercier pour le travail et aussi pour les conditions dans lesquelles, Seigneur, on peut travailler. C'est une bénédiction, alors que certains travaillent dans des endroits dans le monde où ce qu'ils sont pas sûrs qu'ils vont être payés même, où ce qu'on les arnaque, où ce qu'ils espèrent juste avoir de la nourriture pour payer la journée, Seigneur, pour leur famille et pour l'ensemble d'entre nous, Seigneur, dans un pays comme le nôtre d'abondance, ce n'est pas notre cas. Et on veut te dire merci. Et donc, on te prie, Seigneur, de prendre ces dons, ces offrandes qui te sont données, Seigneur, pour ta gloire, pour l'usage de ton royaume, ton Église. Seigneur, donne sagesse pour l'usage de ces dons. Et Seigneur, bénis les missionnaires avec lesquels on supporte cela, les activités d'Église auprès des jeunes, auprès de l'école de dimanche, pour l'évangélisation que ça permet de financer, pour l'usage du bâtiment utilisé pour toutes sortes d'autres choses et tellement d'autres choses encore. Seigneur, on te prie de bénir ceux qui vont enseigner les enfants ce matin, qui ont pris du temps cette semaine pour préparer une leçon, qui ont prié pour ces enfants et qui ce matin vont tenter de l'enseigner en s'adaptant à leur âge, à leurs besoins. Seigneur, bénis leur travail, que les semences de vérité qu'ils vont déposer dans le cœur de nos enfants, que ces semences puissent descendre profondément et qu'elles puissent germer et produire la vie, Seigneur. On te prie pour cette prochaine génération. C'est tellement un défi, Seigneur, la transmission de la foi dans la prochaine génération avec toute la sollicitation, toute la perversion, toutes les morales qui sont brisées autour de nous, toute la publicité, l'Internet, tout qui sollicite l'âme de nos enfants, Seigneur, et qui veut distraire de l'essentiel de ce que leur âme a besoin, d'être rassasiée de leur Sauveur, de leur Seigneur, de leur Créateur. Seigneur, bénis ces ministères, nous te prions dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Prenez place, on va laisser les enfants descendre, aller à leur classe. Et pendant qu'ils sont en train de descendre, je vous invite à prendre vos Bibles, à aller dans Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17. Où on va continuer notre série. Une bonne nouvelle avant que je commence, juste vous partager que Tony et Nathalie Bissonnette ont trouvé une maison. Alors, on est bien content de ça. Alors, à la fin du mois d'octobre, Dieu voulant, ils déménagent à Mont-Carmel. Ceux qui connaissent les gens de Shawinigan connaissent peut-être Alexandre Malta qui est à l'église de Shawinigan depuis quelques années. Alors, ils déménagent et c'est leur maison qu'ils achètent à Mont-Carmel. Donc, ils vont déménager à la fin du mois. Alors, restez aux aguets si peut-être ils ont besoin d'un coup de main dans le déménagement, etc. Une bonne partie de la maison est déjà meublée. Alors, ça devrait sauver beaucoup de travail, mais quand même. Donc, on est reconnaissant pour ça. Et si vous les voyez pas cette semaine, c'est pas compliqué. C'est parce que Tony va se trouver dans le bois, isolé, avec une arme à feu, désirant trouver un chevreuil ou bien un orignal. Il me demandait de prier pour l'orignal. Là, j'ai dit, tu veux qu'on prie pour son âme, tu pries que la viande soit tendre, soit bonne, ou qu'il se place à un bon endroit. C'était pas tout à fait clair. Alors, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez, cette prière pour un orignal. Mais bon, on verra qu'est-ce qui revient avec. Alors, je sais, c'est le temps de la chasse pour plusieurs personnes, là. Son beau-frère aussi, out, là. Alors, vous êtes quelques-uns comme ça, là, qui avez le plaisir de tuer un animal et après ça, d'avoir de la viande dans votre coffre-fort, dans le sous-sol, avec votre viande qui vaut cher. Alors, c'est bon. Je vous invite à aller dans Apocalypse, chapitre 17. Et encore une fois, j'aimerais juste réitérer la bienvenue à tous et chacun ce matin, particulièrement à ceux qui nous visitent, qui êtes de passage parmi nous, vraiment heureux de vous accueillir. On est dans une série dans le livre de l'Apocalypse. Et ce matin, je prends le défi ce matin de couvrir le chapitre 17 et 18 d'un coup. C'est une grosse bouchée. Si je réussis pas à vous satisfaire dans la bouchée qu'on prend parce que c'est trop gros, pardonnez-moi. Je crois vraiment que c'est important de prendre certaines bouchées d'Apocalypse ensemble. Et vraiment, c'est un tout, le chapitre 17 et 18. Et c'est pour ça que je vais le faire ensemble. Mais c'est quand même beaucoup de terrain à couvrir et je vais essayer de couvrir les grandes lignes. Il y a une partie redondante dans le chapitre 18 qu'on ne lira pas justement par souci du temps, parce que ça se répète, le même cycle d'informations. Donc, on va parcourir assez succinctement. Et ce matin, si vous prenez des notes, oui, il y a un plan, vous allez pouvoir suivre le plan, mais il va y avoir en particulier 4 leçons que je vais souligner ce matin. Et il va y avoir une parenthèse que je vais faire au début du message pour souligner un sujet important. Mais il y aura une parenthèse et 4 vérités ou 4 leçons que j'aimerais que vous reteniez ce matin. Et vous allez voir, ils vont être étiquetés clairement, vous les prendrez en note, leçon numéro 1, leçon numéro 2, etc., en gras. Parce que tout à travers ce chapitre, on va parler de Babylone. Évidemment, Babylone n'est pas nécessairement, malgré que c'est possible, mais n'est pas nécessairement la reconstruction de l'ancienne ville de Babylone, mais bien le système qu'elle représente, une sorte de système mondial qui va être économique et religieux, politique et commercial, pour gouverner le monde à l'époque de la tribulation. Et on vient de lire dans le chapitre précédent, c'est la septième coupe. On se trompe, des fois les sceaux, à un moment donné, on les perd lesquels, mais on était au sceau. Et le septième sceau annonçait la destruction de ce système, de cet outil de l'Antichrist pour gouverner le monde au niveau religieux, la croyance des gens et au niveau commercial. Et on voit ces deux choses-là être détruites maintenant dans le chapitre 17 et 18. Le chapitre 16 nous annonce là et le chapitre 17-18 nous développe le détail de tout cela. Et c'est important parce que c'est le système que Dieu va détruire et va punir pour sa séduction du monde, le mal qu'il a fait, et particulièrement envers les croyants qui auront été persécutés à travers cela. La chute de Babylone est donc importante. On a terminé, dans le fond, les 7 sceaux qui ont été brisés. Le 7e sceau ouvrait pour les 7 trompettes. Les 7 trompettes ont été traversées. La 7e trompette a ouvert, finalement, pour les 7 coupes de jugement qui sont versées. Des coupes où ce que la fureur de Dieu est versée sur la terre, et à chaque coupe qui est versée par un ange, on a vu ce qui arrivait. Et on l'a vu au chapitre passé, dans le fond, juste ici, tout le détail. Et le dernier était celle qu'on va couvrir maintenant en détail, que le livre de l'Apocalypse, que Jean reçoit une vision qui nous permet de voir un peu plus de détails sur l'importance et l'ampleur de la destruction de ce dernier sceau. Si je reviens en arrière, je vous rappelle où ce qu'on est dans l'Apocalypse. Donc, on a traversé le milieu, on est ici vers la fin en train de voir les jugements des 7 couples avec la destruction de Babylone qui devient comme un complément. Et donc, le détail nous est donné dans le 17-18, l'information initiale dans le chapitre 16, mais c'est au chapitre 19 que vient se sceller tout ça par le retour du Seigneur Jésus-Christ sur terre, d'une manière fracassante. Et donc, on va voir le roi, non seulement qu'on a vu sur terre, marcher à travers Jérusalem et qu'on a accueilli à Jérusalem, avec des feuilles de palmier, mais finalement, on l'a crucifié, ce roi. Mais là, il va revenir à la même endroit, les deux pieds sur terre, pour écraser l'ennemi et régner de manière permanente. Et c'est ça qu'on va voir au chapitre 19. Mais entre les deux, on doit passer à travers cette scène. Et donc, voici ce qu'on regarde essentiellement. On voit la chute de Babylone. Et donc, dans le premier chapitre 17, c'est la chute particulièrement du système religieux et politique dirigé par la bête. Et dans le chapitre 18, on va trouver davantage la destruction sur l'aspect économique ou commercial de celle-ci. Parce qu'évidemment, pour attirer les gens, il faut aussi de l'argent. Hein? Parler de prospérité, de faire réussir les gens, les appâter avec leurs désirs de l'âme qui ne sont pas rassasiés. Pas juste physiquement, mais rassasiés spirituellement surtout. Et donc, on cherche partout. Et évidemment, ce système babylonien du mal, évidemment, certainement en grande partie symbolique, mais bien réel, de la rébellion de Dieu pour soutenir les gens dans leurs vices et leurs désirs. Vous allez voir le mot apparaître régulièrement, la prostituée, porné. Vous allez voir qu'elle incite à la pornographie. À la prostitution. C'est de là que vient le mot pornographie, vous savez. Hein? Pornéa, pornéo, c'est le mot grec pour parler de cette sexualité, soit qu'on achète, ou sexualité illicite en dehors des liens du mariage entre un homme et une femme qui se sont engagés pour la vie. Et que la Bible identifie avec un mot très clair, pornéa, pornéo, pour parler de cette sexualité illicite. 12 fois dans ce chapitre, ces trois mots-là. Ils vont apparaître un total de 12 fois dans ces 2 chapitres. Ce que la grande prostituée fait, c'est qu'elle amène les gens dans une prostitution spirituelle, de faire d'autres dieux que Dieu lui-même, d'essayer d'assoiffer de toutes sortes de façons, dont aussi, entre autres, la sexualité, qui est répétée à plusieurs occasions dans le livre, comme un problème qui s'accentue dans la fin des temps, et que les gens veulent continuer leurs œuvres et se laisser aller à leurs désirs, et ça correspond bien avec ce qu'on voit autour de nous. Où la moralité a changé, où ce qu'on appelle bien-mal et mal-bien, où ce qu'on persécute ceux qui ont une moralité qui dérange les autres, et où on dit que des choses qui sont mal sont bien, et on l'enseigne à nos enfants dès qu'ils sont à l'école et qu'ils ont 4-5 ans. On vient corrompre et on tente de briser leurs mœurs et de les attacher à ce monde. Et ici, ce système de ce monde est brisé et détruit parce qu'il est destructeur, et on va voir les raisons qui vont être soulignées. Donc, voilà les grandes lignes de ce qu'on va parcourir, et je vais tenter d'avancer et de suivre avec mes feuilles parce qu'on va aller vite ce matin. Donc, la vision de la femme, de la grande femme, de cette prostitution, on va lire les versets 17, chapitre 17, versets 1 à 6. Et on va prier après ça. Et l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes s'avança et me parla en ces termes. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui réside au bord des océans. Avec elle, les rois de la terre se sont prostitués. On a vu les rois de la terre qui se liguent ensemble dans le chapitre précédent, dans une grande bataille dans laquelle ils sont séduits dedans avec la bête. Donc, ces rois de la terre, ces mêmes, se sont embarqués dans ces prostitutions. Et les habitants de la terre se sont enivrés du vin, de sa distraction, du vin, de ses prostitutions, du plaisir enlaçant et aussi de toute la distraction que cela apporte. Alors, il me transporta en esprit au désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Donc, cette bête qu'on parle depuis le chapitre 11, qui dirige le système du mal. Couvert de noms de blasphématoires. On a vu aussi ces insultes contre Dieu, de miner Dieu, de mettre le doute sur Dieu, de blâmer Dieu pour le malheur, plutôt que de regarder à soi. Et qui avait 7 têtes et 10 couronnes. Un peu énigmatique, ça s'explique plus loin. La femme vêtue de pourpre et d'écarlate étincelait d'or et de pierres précieuses et de perles. Parce qu'évidemment, quand on regarde à quelque chose qui veut nous appâter, il faut voir la richesse pour nous attirer, n'est-ce pas? Il faut voir les apparences de réussite. Il faut avoir un appât pour aller chercher les désirs, la richesse et tout ce qu'elle peut procurer. Et elle tenait dans sa main une coupe pleine d'abominations. Mais c'est quoi ces abominations-là? C'est les souillures, les saletés de sa prostitution. C'est très graphique. Sur son front, un nom qui était écrit, mystérieux, Babylone la Grande. Alors que les croyants ont le nom du Seigneur écrit sur leur front, elle aussi veut étiqueter ses croyants qui lui sont fidèles et attachés. Et elle aussi, elle les étampe dans le front, littéralement, avec un nom mystérieux, peut-être Babylone la Grande, mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis la femme, ivre du sang des saints. Remarquez bien ici. Et je vis la femme, ivre, donc son plaisir, ce qui l'envoûtait, ce qui la faisait capoter, en bon québécois. C'est la souffrance, le sang des saints, de persécuter ces gens-là. Pourquoi? Et du sang des témoins de Jésus. C'est ça qui est intéressant. Ils sont des témoins de Jésus. C'est ça la menace. Et à la vue, je resta confus. Ça y rentre dedans, de voir cette scène. Wow! Qu'est-ce que c'est ça? Prions, Seigneur. Seigneur, on vient de lire ta parole, des symboles, des images et aussi des visions que tu as données à Jean il y a 2000 ans pour nous instruire encore aujourd'hui, plus de 1900 ans plus tard. Seigneur, instruis-nous, s'il vous plaît, aujourd'hui. Enseigne-nous sur toi. Aide-nous à comprendre les grandes lignes des enjeux sans tomber dans de la spéculation sans fin, mais surtout à connaître davantage le Dieu qui juge dans ce chapitre. De comprendre, Seigneur, notre relation avec toi. Et qu'est-ce que j'ai à retenir sur toi, Seigneur, qui affecte mon quotidien aujourd'hui. Instruis-nous, Seigneur, s'il vous plaît. Nous te le demandons dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, quatre leçons ce matin qu'on va regarder à différents moments donnés dans les notes. Ça ne sera pas les quatre points, ils vont apparaître ici et là. Et comme je l'ai fait depuis le début, c'est pas pour tomber dans des spéculations, des choses qui sont énigmatiques. On va toucher ce qui est clair. Et ce qu'on veut surtout apprendre, c'est qu'est-ce que j'apprends sur mon Dieu? Quelle est la théologie, la science de Dieu qu'on reçoit ici de ce chapitre? Qu'est-ce que j'apprends sur ma relation avec Jésus? Qu'est-ce que j'apprends sur le Dieu qui a créé le monde et ce qu'il est en train de me dire ici et qui peut affecter mon quotidien, ma relation avec Dieu, mais avec dans notre couple, au travail, avec mon enfant, avec mon voisin? Qu'est-ce que j'apprends ici qui va faire une différence? Et vous allez voir, c'est vérité importante. La grande prostituée, bien donc, premièrement, ce système du mal, il représente un système, mais peut-être aussi un endroit, et c'est un peu comme on dit Wall Street, ou qu'on parle de la Silicon Valley. Hein, on comprend que ce n'est pas une adresse. On comprend que ce n'est pas une ville nécessairement, c'est un endroit, un système qui se trouve à un endroit géographique, mais qui représente un ensemble de valeurs et qui contrôle une partie de l'économie mondiale. C'est un peu la même idée, si on veut essayer de comparer cette notion, mais qui englobe maintenant pas seulement un aspect financier, mais un aspect aussi religieux, qui vient chercher le sens des gens qui cherchent une quête de leur vie. À quoi ça sert? C'est quoi mon but? C'est quoi le grand objectif de mon existence? Et trouver leur raison d'être. Et évidemment, la grande prostituée veut leur offrir cela. Et donc, cette grande prostituée, on voit son pouvoir politique qu'elle reçoit en autorité. On voit sa gloire, ses richesses, pour évidemment appâter puis attirer les gens. Parce qu'évidemment, même si on n'aime pas la reine, il n'y a personne qui serait assez fou pour cracher dessus lorsqu'elle passe à côté. Pourquoi? Parce que sa présence, que je l'aime ou je ne l'aime pas, que j'aime la monarchie ou pas, que je la trouve formidable ou pas, c'est la reine. Elle représente quand même quelque chose. Elle vient avec une assemblée de gens, et les vêtements, comme on a parlé, et impose un certain respect, n'est-ce pas? Mais ça se veut aussi, non seulement imposer un respect, mais d'imposer aussi une certaine désir d'y croire, une certaine aspiration à vouloir suivre, n'est-ce pas? Ça impose un respect, mais un respect qui veut aussi inciter les gens à suivre ses valeurs. Et c'est ce qu'il fait ici. Toutes ces perles, ce déploiement de richesses, etc., qui est mentionné pour attirer les gens. Et une contrefaçon, évidemment, parce que alors qu'il tente d'imiter, tout au long, on voit la bête qui essaie d'imiter ce que l'agneau fait. Hein? Il fait des grands signes. Bien, évidemment, la bête tente de faire des signes par son faux prophète pour apparaître aussi d'avoir ressuscité, pour apparaître de faire des grands signes. Elle fait de grandes choses. Elle utilise le mot grand aussi, mais jamais autant que Jésus, que ce que Dieu fait dans le livre de l'Apocalypse. Toujours à la traîne, à essayer d'imiter, pour essayer d'attirer les gens. Et ici, au verset 5, on voit la contrefaçon. Encore là, essayer d'étiqueter, comme Dieu étiquette ceux qui ont son nom sur lui, d'étiqueter, de mettre son nom mystérieux et qui attire le mystère et l'intérêt des gens sur leur front, et comme la marque, évidemment, liée à la marque de la bête, n'est-ce pas? Non seulement ça, mais on voit aussi, et ça va se développer dans les prochains versets, une sorte de fédération de ces gens-là, parce qu'on parle, évidemment, dans le verset 3 à la fin, on parle de ces blasphèmes, et là, de 7 têtes et de 10 cornes. On parle de des rois, ça va se développer et expliquer dans les prochains versets. Vous allez voir le détail de ça, mais ça, une sorte de fédération de regroupement de quelques pays ou quelques gouverneurs ou dirigeants mondiaux importants, clés, avec lesquels elle va fonctionner. Et on va lire ça dans quelques instants. Mais en avant, notons ici la persécution qui est notée dans le verset 6. Le sang des croyants qui est la cible, parce que ces gens-là sont des témoins de Christ. C'est ce qui fait qu'ils sont détestés, qu'ils sont haïs par eux, qu'ils sont une menace au système. Ils ne sont pas des témoins d'eux-mêmes, des témoins de leur église locale, des témoins de ci ou de ça. Ils sont des témoins de Jésus. Et ça, c'est vraiment important. La cause de leur persécution, c'est qu'ils proclament le nom de Jésus. Ils parlent de Jésus. Ils vivent bien imparfaitement, mais comme Jésus. Et ils proclament que Jésus est le seul chemin. Et ça, c'est inacceptable. Et aujourd'hui encore, n'est-ce pas? Parler de Jésus comme seul chemin, ouf, tu vas te faire regarder. Absolument. Ben voyons donc. Ben voyons donc. Il y a plein de vérités. On va te ridiculiser. T'es naïf. T'es exclusif. Voyons donc, vous êtes les meilleurs, vous autres. On va t'attaquer, on va te faire sentir mal. D'oser affirmer une vérité comme ça, alors que les gens, la vérité autour d'eux est relative à chacun. Chacun dessine sa vérité, sa religion, sa foi. Tout le monde est un croyant dans ce qu'il veut. Et là, viens pas m'imposer ta croyance. Non, moi j'oserais jamais. J'oserais jamais faire. Qui suis-je, moi, pour imposer ma croyance ou pour faire une telle affirmation? Mais j'aimerais te dire quelque chose ce matin. Jésus a dit, lui, pas moi, j'oserais pas faire ça. Mais Jésus lui a dit, je suis le chemin au singulier. La vérité au singulier et la vie. Puis pour ajouter là-dessus, Jésus, nul ne vient au Père que par moi. Et oui, c'est ce qu'on croit ici, parce que Jésus l'a dit, et que Jésus a tout fait pour prouver ce qu'il a dit, et qu'il mérite ma confiance, parce que personne d'autre sur cette terre n'est venu et ne fait ce que Jésus a fait, et a vaincu la mort pour pouvoir prouver une telle affirmation. Personne. Et remarquez bien ici la réaction de Jean qui est comme... Et là, c'est pour ça qu'il va y être expliqué un peu qu'est-ce qui se passe après. Avec plus de détails, il réagit avec un grand étonnement. Comme quand il a vu la vision du chapitre 13, qu'il voyait cette bête. Ouf, qu'est-ce que c'est ça? Il y a une réaction d'étonnement. Et en plus, le sang des croyants est pour nous confortable en Amérique du Nord. C'est une chose. Mais pour quelqu'un qui le vit au quotidien, qui sait ce que c'est d'avoir sa vie en danger, c'est autre chose. Et permettez-moi, à ce point-ci, de vous donner des exemples. Et c'est la parenthèse que j'aimerais parler ce matin et qu'on a décidé aussi comme conseil pastoral. Il y a le jour, il y a une semaine ou un dimanche consacré à souligner l'importance de prier, de penser à nos frères et sœurs dans le monde qui sont persécutés, l'Église persécutée. C'est dans un mois, mais ça fitait mieux avec le présent. Et je voulais prendre un 5 minutes pour vous sensibiliser à cette réalité. On parle de gens persécutés dans les versets qui viennent de suivre. Permettez-moi de vous montrer sur Porte Ouverte, vous pouvez aller trouver l'information vous-même, cet endroit qui nous montre les endroits où les croyants dans le monde sont persécutés aujourd'hui. Maintenant, pas dans l'avenir, là. Maintenant déjà. Et qu'est-ce que ça signifie en chiffres? Et si vous allez sur cette map, sur le site, vous pouvez mettre votre curseur sur chacun des points ronds et vous allez voir le nom du pays et sa positionnement sur l'intensité des pays qui persécutent le plus. Mais donnez-moi, je vous donne ici quelques chiffres pour vous aider, OK? Sur la persécution. C'est près de 6 000 chrétiens qui ont été tués dans la dernière année. L'année qui calcule ici, elle s'arrêtait le 30 septembre passé. Et commençait le 1er octobre de 2020, terminait le 30 septembre de 2021. Sur ces 12 mois, c'est près de 6 000 chrétiens, 16 par jour, qui ont été tués pour leur foi dans différents pays du monde. C'est plus de 5 000 églises ciblées de persécution, dont 3 000 seulement en Chine. C'est plus de 6 000 chrétiens détenus dans cette période de temps-là. Une augmentation de 44% face à l'année précédente. Et là, j'ai mis devant vous la liste des pays où c'est le plus difficile pour un chrétien, où l'intensité de la persécution est le plus élevée. Et vous voyez là ici l'ensemble des 10 premiers pays, 11 premiers, j'ai mentionné aussi la Chine qui est tellement gros que j'ai mis aussi où elle se trouvait, la 17e place. Et ces gens-là se ramassent en prison, sans nourriture. Où des gens peuvent amener de la nourriture. Certains sont pendus en Iran. Certains sont emprisonnés jusqu'à leur mort, dans des camps de travail jusqu'à leur mort, en Corée du Nord, par exemple. Des filles qui se convertissent peuvent être brûlées sur place par leur famille dans le nord de l'Inde. Ça ne s'est pas vu la semaine passée, ça se voit toutes les années. Ce n'est pas une histoire qui est arrivée, c'est une histoire répétitive qui arrive à différents pays du monde pour de vrai. Et je vous en nomme que quelques-uns. Et évidemment, les pays où il y a une plus grande persécution sont généralement reliés aussi avec un pays qui est gouverné par la religion musulmane, qui est la plus agressive pour tuer les chrétiens. Et dans certains pays, les femmes sont particulièrement ciblées, comme nous avons vu dans les dernières semaines avec ce qui se passe en Iran, en Afghanistan, ou ce que le fait qu'on ne voit pas la femme comme l'homme, comme égaux devant Dieu. Tous deux dépositaires de l'image de Dieu. Mais voilà ce que ça fait. Un est supérieur à l'autre, l'autre écrase l'autre et l'autre le traite avec injustice au lieu de protéger et d'aimer ce que Dieu a prescrit dans la parole de Dieu. N'est-ce pas? Prions pour ces gens-là. On parle de ceux ici qui vont mourir dans le futur. Il y en a présentement qui ont besoin de nos prières et de se rappeler dans notre petit confort nord-américain où ce qu'on chiale sur ci dans l'église ou qu'on chiale sur ça dans l'église qui ne fait pas notre affaire. Puis, oh, là, telle personne me tape sur les nerfs. Mais que dans d'autres pays, les frères et sœurs ont de la misère à se voir puis ils se voient au péril de leur vie. Peut-être tu ne regarderas plus ton frère, ta sœur de la même façon. Peut-être tu ne regarderas pas ton petit conflit, ta petite préférence, ta petite critique, en toute franchise, permettez-moi, de la même façon. On accorde tellement d'importance à mon œil, à ce que moi j'ai à dire, mon opinion. Et quand tu es là, tu ne penses plus aux mêmes affaires. Ton frère qui tape ses nerfs, ce n'est plus ton frère qui tape ses nerfs, c'est le frère qui vient de se faire arrêter par la police parce qu'il a osé donner un petit traité discrètement à une de ses voisines qui l'a appelée la police. Ça nuance les choses. Et ce matin, je veux qu'on s'arrête un instant, qu'on réfléchisse à ça et qu'on prie pour nos frères et nos sœurs qui souffrent dans le monde. Une alliance qui continue au verset 7. Je continue la lecture. On pourrait en dire beaucoup sur nos frères et sœurs qui souffrent, mais on va continuer, puisque le Seigneur en parle un peu plus loin encore, et on voit ses attentions pour eux. Et l'ange me dit, « Pourquoi cette stupeur? Je te dirai le mystère de la femme. » Donc, on voit ici cette réaction de surprise, et aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça, c'est bouleversant, ça fait peur, c'est mystérieux. Et là, il lui explique, « De la bête aux sept têtes et aux 10 cornes qui la portent, la bête que tu as vue était, mais elle n'est plus. » Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Donc, on fait un petit peu une rétrospective de ce qu'on a vu déjà au chapitre 13, n'est-ce pas? La sortie de la bête et celle montée. Et là, qu'elle est aussi tuée ou blessée à mort et qu'elle revient à la vie. Et l'on dit, et les habitants de la terre dont le nom n'est pas écrit depuis la fondation du monde dans le livre de la vie s'étonneront en voyant la bête, car elle était, elle n'est plus, mais elle reviendra. Donc, tout ce mystère-là, il revient sur ce mystère du chapitre 13 de ces événements pour attirer les gens, les appâter à la suivre. C'est le moment d'avoir de l'intelligence. Donc, il attire notre attention. Ici, c'est le temps de réfléchir et de demander à Dieu la sagesse pour éclairer. Les sept têtes sont sept montagnes où réside la femme. Pour le juif, ou pour les gens qui lisaient à l'époque, une ville aux sept montagnes, c'était assez simple, c'était Rome. C'est la ville aux sept montagnes. Et les auteurs sont généralement assez unanimes pour y comprendre ici qu'on parle de Rome, évidemment, ville importante de l'Europe, ville de résidence, évidemment, de la religion catholique, ville d'un gouvernement, évidemment, qui a été européen pendant longtemps avec les empereurs, etc. Et donc, et ce sont aussi sept rois. Donc, c'est sept têtes, mais c'est sept rois différents avec lesquels elles travaillent. Cinq d'entre eux, donc sur ces sept, il y en a cinq d'entre eux qui sont tombés, et le sixième règne, et la septième n'est pas encore venue. Et là, chez les commentaires, évidemment, catholiques, protestants, évangéliques, il y a une panoplie d'interprétations ici, et je ne vous présenterai même pas une panoplie d'interprétations, parce qu'il y a des variantes d'opinion là-dessus, mais qui font une liste de différents dirigeants, et que le prochain, ce serait l'Antichrist, et qui était celui-ci auquel il fait allusion. C'est pas évident, il n'y a pas une harmonie sur les auteurs. J'ai mon opinion, puis en fait, elle n'est pas vraiment importante pour vous de le savoir non plus, parce que c'est vraiment pas le fait saillant du chapitre. Okay? Pour être bien honnête avec vous. On pourrait spéculer, mais il y a une série de rois et il arrive finalement celui-ci. Okay? Mais quand il viendra, il ne demeurera que pour un peu de temps, ce septième-là. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même la huitième. Okay, donc, il y a un huitième roi, il y en a un qui est là temporairement comme pion, et là, il y a un huitième et c'est la bête qui est le huitième qui l'emporte finalement, qui vient prendre le relais. Elle est du nombre des sept et s'en va à la perdition. Et ce qu'on veut retenir ici, c'est que peu importe qu'elle a un temps de gouvernance, c'est écrit trois fois ici, elle s'en va à perdition. Ça va finir in the pit. on dit en anglais, dans la fosse, dans les flammes de feu éternel. Et on dit, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royauté. Donc, il y a un autre groupe là, de dirigeants, 10 rois. Mais pour une heure, ils partageront le pouvoir royal avec la bête. Remarquez ici, pouvoir royal. Ils n'ont qu'un seul dessein, mettre au service de la bête leur puissance et leur pouvoir. Donc, il y a quelque chose qui amène une convergence de tous ces rois-là ou ces dirigeants de pays clés qui gouvernent une bonne partie du monde à travailler ensemble et de vouloir même céder leur contrôle ou ce qu'on est les 10, mais c'est toi qui règnes sur tout ça qui s'unissent les forces ensemble. Cette coalition de rois qui est mentionnée dans le chapitre précédent, dans la 6e coupe. Et là, ce qui est important, c'est qu'on y arrive au verset 14. Ils combattront l'agneau. Donc, on comprend ici que c'est à son retour à la fin des temps, chapitre 19. « Et l'agneau les vaincra, car il est seigneur des seigneurs et roi des rois. Et avec lui, les appelés, les élus et les fidèles vaincront ainsi. » Quelques observations. Donc, on a vu la bête, on a parlé les 7 têtes. Donc, on parle de différents dirigeants. Il y a une séquence de dirigeants dans l'histoire et là, il arrive à lui. Et évidemment, les opinions vont varier. Il y en a qui vont parler, évidemment, de certains rois européens, des empereurs embêtants. Les cornes, donc un groupe de dirigeants, 10 avec lesquels ils travaillent et qui vont converger ensemble et donner leur pouvoir, et ils vouent une allégeance à la bête. Et là, on apprend quelque chose d'intéressant. Il y a une coalition de rois, mais malgré qu'il y a une coalition de rois, et qui se donne la royauté, qui donne la royauté, on apprend qu'il y a un roi des rois, ironiquement. Malgré toute l'apparence de puissance que ces gens peuvent avoir, la ligue de gens qui se mettent ensemble, des rois qui confèrent la royauté à un plus haut que les autres, et qu'ils pensent être le roi des rois, on nous déclare ici une vérité essentielle, le vrai roi des petits rois qui sont mentionnés un derrière l'autre, c'est l'agneau. Et ça, c'est la vérité numéro un. Qui est le vrai roi? Il y a plein de rois. Il y a des gens qui aiment le titre de roi, qui veulent. Il y en a un présentement qui, en Europe de l'Est, qui veut prendre beaucoup de place. Dieu lui permet pour un temps. Dieu lui permet pour un temps. Il n'est pas déstabilisé par ça. Mais il y a un roi des rois. Il y a un seigneur des petits seigneurs. Et j'aime la traduction quand on voit justement le majuscule sur le singulier du roi et des rois en minuscule. Rappelons-nous que tout roi terrestre n'est qu'un roi avec un petit R et au pluriel. Mais il y en a un au singulier. Il y en a un avec un majuscule. Et c'est l'agneau. Et il est vainqueur absolu. Alors, malgré l'illusion de leur autorité temporairement paraître devant eux, il y a un seul roi et ils ne peuvent pas rien y faire et il vient établir toute chose. Donc, quand on se sent intimidé, quand on sent que ça ne marche pas, rappelez-vous, là, il n'y a rien de tout ça qui s'est passé sans que le roi l'ait permis. Et qu'à la fin de tout ça, même s'il y a un temps où ce que ces gens-là vont diriger faire du mal, il y a le roi qui va venir établir toute chose et on va en reparler après dans les prochains versets. Mais remarquez ce qu'on dit sur les croyants de cette époque-là, à la fin du verset 14. Il y a une triple description des croyants. Regardez la fin du verset 14. On parle des croyants comme étant les appelés, les élus et les fidèles. Des fois, ces mots-là, dans notre langage, peuvent porter à confusion ou pas être aussi clair. Mais remarquez bien, les appelés, c'est les gens qui ont été interpellés. Dieu a invité ces gens-là. Maintenant, la Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. OK? Beaucoup d'appelés. L'appel est lancé à beaucoup. Mais peu d'élus, et donc le deuxième nom, c'est un élu, quelqu'un qui a répondu, mais qui a aussi, il y a un choix de Dieu là-dedans. Il y a un choix de l'individu, il y a un choix de Dieu. Il est appelé ici un choisi, un élu. Et finalement, on nous dit que ceux-ci sont appelés aussi des fidèles. Pour nous, le mot fidèle trahit l'origine du mot fidèle, veut parler de quelqu'un qui a la foi. Quelqu'un est fidèle parce qu'il a la foi. C'est le mot foi qui apparaît là en réalité. Mais lorsqu'il est sous certains contextes, on le comprend comme étant fidèle, c'est-à-dire quelqu'un qui est fidèle à sa foi, qu'il fait conformément à sa foi, qu'il exerce la foi, qu'il vit la foi dans ses actions. Et quelqu'un qui vit la foi, c'est un fidèle. C'est ça être fidèle, vivre la foi. C'est l'étymologie même du mot. Donc, on a une triple description de ce que c'est un croyant. Quelqu'un qui a reçu la grâce d'être invité, quelqu'un qui a reçu la grâce d'être choisi de Dieu et d'avoir accepté l'invitation, quelqu'un qui vit au quotidien, non seulement d'une foi professée à un moment donné, mais qui vit au quotidien sa foi et qui le rend fidèle. Ceux-ci sont appelés aussi, au verset 7 et au chapitre suivant, les saints, parce qu'ils ont été pardonnés de leurs péchés, n'est-ce pas? Ils sont appelés aussi des saints dans les deux chapitres. Destruction de la prostituée. Et là, ici, on voit les eaux qui sont les nations. Je vous lis brièvement ces quelques versets, au verset 15. Et puis, il me dit, les eaux que tu as vues là, où réside la prostituée? Bien, ce sont les peuples. C'est pas la première fois qu'on en parle. Quand on parle des grandes eaux, c'était une image où vous parlez les eaux, la multitude des peuples, de toute langue, de la foule, des nations, etc. Et les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Ah, intéressant, là, ils ont leur virement de situation. Attends un peu, ils étaient ensemble, là. On capte notre attention, regardez bien, là. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Donc, ce système religieux qui appâtait les gens de valeurs, etc., peut-être est-ce une fausse foi. Beaucoup dans les dernières 100, 200, 300 ans, les protestants identifient ça comme l'Église catholique. Je ne sais pas. Difficile à dire tout cela. Encore là, de la spéculation, c'est basé sur nos yeux. Mais elles la rendront solitaire et nue. Elles mangeront de sa chair et la brûleront au feu. Bon, c'est un gros party ici de macabre. Alors, la destruction totale, et c'est ce qu'il y a à dire avec ces quatre notions-là de verbes, c'est qu'il y a une destruction totale où ce que là, il y a un revirement où ce que ces dirigeants-là vont finalement se revirer contre la prostituée avec laquelle ils étaient associés. Il va y avoir une autodestruction à l'intérieur. Ça fait penser des fois à des guerres qu'Israël a eues, puis Dieu mettait la pagaille à l'intérieur du peuple et le peuple ennemi s'entretuait entre eux. Mais regardez ce qu'on dit après ça. Dieu leur a mis au cœur de réaliser son dessein. Fait que ces gens-là qui avaient tout un plan, là, bien fait. Un même dessein, mettre leur royauté au service de la bête jusqu'à ce que s'accomplissent les paroles de Dieu. Jusqu'à l'accomplissement des paroles de Dieu. Et la femme que tu as vue, c'est la grande cité qui règne sur les rois de la terre. Et donc, une situation qui nous montre que Dieu va utiliser leurs relations puis les virer les uns contre les autres et un des deux partis, le système va être tué par l'autre lorsqu'il ne fera plus son affaire et qu'il ne sera plus utile. Un jugement de l'intérieur. Et on nous dit que ce n'est pas arrivé par hasard. C'est sous le contrôle de Dieu que ça s'est passé. C'est Dieu qui leur a donné ses desseins et de réaliser ses plans dans une autodestruction entre eux. Intéressant. Ceux qui règnent, qui sont au contrôle, qui sont au pouvoir, qui se pensent tout permis, qui s'en vont dans leur agenda. Il n'y a personne qui peut nous arrêter. Et Seigneur, de faire pencher leur cœur à faire ses plans. Voilà la deuxième leçon. Qui est vraiment au contrôle? Nous, on regarde le jeu politique, puis là, ah, on est choqués, comment ça? Puis là, hey. Les amis, on est des chrétiens. Et la Bible est claire. Et tout ce que Jésus a enseigné est clair. Qui est vraiment au contrôle? Dieu. Il n'y a rien qui s'est passé sans qu'il l'ait permis ou ordonné. Et allons même un pas plus loin. Le mot « cœur » n'est pas utilisé souvent dans le livre de l'Apocalypse, que 3 fois. 2 fois dans les chapitres qu'on regarde et une autre fois au chapitre 2. Ah non, je vais y revenir dans un instant. Non, ce n'est pas ça que je voulais. C'est le proverbe. Écoutez bien les proverbes qui sont ici, OK? Proverbes 19, 21 et 21.1. Il y a beaucoup de pensées dans le cœur d'un homme, mais le conseil de l'Éternel, c'est là ce qui s'accomplit. Beaucoup d'idées, beaucoup de rêves, mais au bout du compte, Dieu fait arriver ses plans. Le cœur d'un roi dans la main de l'Éternel est un des ruisseaux d'eau qui l'incline comme il lui plaît. Ça relativise les choses, hein? Prenez une coupe d'eau. Oui, nous autres, elle fuit beaucoup entre les doigts, là. Puis là, vous pouvez la basculer d'un bord comme de l'autre. Faites-la à la maison quand vous allez laver vos mains en revenant de l'église. Et regardez-le, comment vous avez le contrôle. Dieu contrôle les rois de la même façon. Il fait pencher d'un bord comme de l'autre. Et ce n'est pas pour rien que des fois, des rois ont fait des choses qu'on ne s'attendait tellement pas, parce que Dieu fait pencher comme il le veut. Il ne les fait pas faire le mal, il les laisse aller dans le mal. Et leur plan mauvais, quand ils désirent les laisser aller pour s'auto-juger et juger leur peuple, et il les fait pencher de l'autre côté lorsqu'il veut les utiliser pour punir un autre peuple. Il les laisse pencher d'un autre côté pour se faire du mal à lui-même. Il les fait pencher de l'autre côté pour protéger un innocent. Et d'une façon qui, des fois, nous dépasse complètement. Ça ne fait pas de sens, à moins que je me rappelle que le cœur du roi est comme un peu d'eau dans une main, dans la main de Dieu, dans celui qui est au contrôle et qui va du côté que lui veut. Et là, ça vient relativiser toute ma hargne, toute ma colère contre les situations autour de moi. Attends un petit peu. Le Dieu dans lequel je crois, il est le roi, il est vainqueur. Et deuxièmement, il est au contrôle. Disons-le ensemble, le roi dans lequel je crois, il est au contrôle. Et ça, déjà, ça devrait calmer mon cœur, le réconforter. Jusqu'à ce que soient accomplies les paroles de Dieu, il a un temps, les amis. Ne l'oublions pas. Et s'il nous répète cette vérité, il y a un temps, il y a un contrôle divin qui devrait calmer notre cœur. Et finalement, la femme, bien, on apprend que c'est la grande ville, ce système économique et religieux qui est là. Maintenant, je vous rappelle ici notre plan. On a regardé le système politique, l'autre, on va le regarder rapidement. C'est le système mondial économique aussi, le Wall Street. C'est aussi le système de l'argent et aussi donc des profits qui étaient là. Et je ne suis pas en train de dire que c'est mal de faire du profit dans votre travail. C'est pas ça que je dis. Mais le système ici d'appât, qui peut aussi être mal dans notre travail, ou non, tout dépendant, où notre cœur est attaché. Voilà l'enjeu. Est-ce que mon cœur est attaché à cela? Ou est-ce que Dieu me rend libre de cœur, mais me permet d'utiliser cela pour faire les choses selon son cœur à lui? Et donc, on regarde maintenant les trois points dans le chapitre 18, la destruction de Babylone, après cela, les lamentations des gens de la terre, et là, sur terre, c'est la lamentation, dans les cieux, c'est la réjouissance. Quel contraste, n'est-ce pas? La destruction. Alors, premièrement, il y a l'annonce du jugement et puis l'appel en vue du jugement. Regardons ces versets qu'on va lire brièvement. Je vis ensuite un autre ange descendre du ciel. Il avait un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Et s'écria d'une voix forte, « elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue demeure de démons, repère pour les esprits impurs, ou le mot repère, ici c'est le mot prison, prison ou repère, de tous les oiseaux impurs et odieux. » Et vous allez comprendre ce qu'ils font, ces oiseaux-là, dans le chapitre suivant. Car elle a abreuvé toutes les nations. On nous donne la raison de son jugement. Elle a abreuvé toutes les nations du vin de sa fureur, de sa prostitution. Les rois de la terre se sont prostitués avec elle et les marchands de la terre se sont enrichis de la puissance de son luxe. Donc, notez bien ici la question de séduire ou d'abreuver les nations et aussi l'aspect économique des marchands qui font du profit et qui permet de vivre d'une grande luxure. Le mot luxure va revenir à 2-3 occasions et va nous être illustré par une longue liste de produits de luxure qui sont mentionnés un peu plus loin dans le chapitre pour lesquels les gens, évidemment, ont été contaminés et devenus dépendants. Et donc, il annonce la destruction ici et il fait un appel au jugement maintenant. Et j'entendis une autre voix qui, du ciel, disait « Sortez !» Et on peut quasiment entendre Paul ici, dans 2 Corinthiens, nous faire le même exemple. Sortez de là. Restez pas là. Courez et évadez-vous de là, de son emprise. Sortez de cette cité, ô mon peuple. Et donc, une invitation, premièrement, à ceux qui sont de son peuple, de peur de participer à ses péchés et de partager les fléaux qui lui sont destinés. Et on les voit, les fléaux mentionnés dans le chapitre précédent et aussi ici. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses injustices. Ah, vous voyez, quand on a l'impression, des fois, qu'il y a de l'injustice, qu'il y a de l'injustice que Dieu semble tolérer. J'aimerais vous dire que Dieu ne tolère pas. Elle s'empile, tout simplement. Elle s'empile. Et à un moment donné, la pile va arriver à un endroit où Dieu dit « c'est assez ». Mais elles s'empilent, les amis, les injustices. Elles ne disparaissent pas. Il n'y a pas un Dieu qui ferme les yeux, qui regarde ailleurs, qui est trop occupé avec d'autres endroits dans le monde. Non, elles s'empilent. Découragez-vous pas de ce qu'on vous fait. Elles s'empilent. Dieu s'est souvenu. Payez-la de sa propre monnaie. Donc, rendez-lui la place. Rendez-lui au double de ce qu'elle a fait. Dans la coupe où elle a été mêlée, ses vins, mêlez-en pour elle au double. Alors, Dieu reconnaît ici la méchanceté, le mal qu'elle a fait aux croyants, la séduction du monde pour la distraire. Oui, selon ses désirs, le monde a répondu. Mais quand même, son rôle est là et donc il a puni. Et donc, on a une déclaration à l'impératif de sortir pour nous, de ne pas en faire partie, de ne pas y être attaché, de ne pas y prendre part. Et trois raisons. Premièrement, d'en sortir parce que Dieu s'est souvenu de ses injustices. Et là, déjà aussi, une autre vérité, même si je ne l'ai pas listée dans mes vérités importantes, Dieu se souvient. Ça va paraître dans la prochaine déclaration, mais quand même, Dieu se souvient. Il n'y a rien qui lui passe sur le nez. Ça a été mentionné dans le chapitre précédent et c'est revenu ici. La rétribution, il y a un payez-lui. Il va avoir une juste récompense pour le mal fait, proportionnelle, adaptée à ce qu'elle a fait. Dieu est parfaitement juste. Et donc, lui rend au double, parce qu'il y avait un système de rétribution, vous savez, pour les fautes dans la loi, dans l'Ancien Testament. Et là, les représailles. Regardez bien maintenant les représailles. Autant elle est, c'est complu dans la gloire et la luxure, encore ici qui est mentionné, autant rendez-lui de tourment et de deuil, puisqu'elle a dit dans son cœur, soulignez ici le mot ici, elle a dit dans son cœur, je trône en reine, et je ne suis point veuve, jamais je ne verrai le deuil. Quelle arrogance, elle ne se méfie pas, elle est au-dessus de toutes. À cause de cela, à cause de cette pensée arrogante, cela deviendra sur elle. Et en un seul jour, les fléaux qui lui sont destinés, mort, deuil, famine, elle sera consumée par le feu, puis, car puissant est le Seigneur Dieu qui l'a jugée. Notons ici une quatrième vérité. Quel est le problème principal de l'humain? Ici, et c'est illustré, un cœur arrogant. Un cœur orgueilleux, un cœur autosuffisant. Seulement trois fois le mot cœur est utilisé dans l'Apocalypse. Ici, Dieu qui penche le cœur, justement dans le chapitre précédent qui parlait de cœur qui a donné, et aussi à un autre endroit, lorsqu'il parle aux églises, et voici ce qu'il dit aux églises. Chapitre 2, verset 22, vous pouvez l'écrire à côté, c'est une bonne référence à avoir, et je vous donnerai une deuxième référence après ça. Chapitre 2, verset 23. « Je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, les cardias. » C'est de là que vient le mot « cardiaque. Hein? « Et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. » Je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Les émotions, la volonté, mes désirs les plus profonds, mes pensées mensongères ou de vérité, c'est moi qui les sonde, les motifs profonds de chacune de mes actions. Dieu seul le sait. Et quand il dit qu'il a donné leur cœur, et que là, ici, il connaît les pensées de leur cœur arrogant et qu'il les juge pour ça proportionnellement, c'est parce que celui-ci est celui qui sonde les reins et les cœurs. Il est au courant de tout. Et si vous voulez une illustration de tout ça, vous avez cette référence dans Ésaïe, chapitre 47, versets 7 et 8. Et je ne le lirai pas ce matin, mais prenez-la en note, où ce qu'on voit, cette même expression d'arrogance, ce cœur suffisant qui était capable de s'arranger au-dessus de tout, ça n'arrivera pas le malheur à moi, et bang, ça frappe. Il dit, cette arrogance-là va être détruite. Et la référence que là est une image exacte de ce qui se passe ici. On lit aussi dans 1 Jean, chapitre 3, c'est Jean encore ici, chapitre 3, verset 19. À 21. Par là, nous saurons que nous sommes dans la vérité et nous saurons notre cœur, nous rassurons, excusez-moi, notre cœur devant lui. En parlant d'obéissance, d'être dans la vérité, dans la lumière, ils vont rassurer nos cœurs devant lui. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout, bien-aimés. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et il en parlait pour dire, vivez de manière conforme à la vérité, ça rassure votre cœur. Dieu connaît le cœur. Et combien d'autres choses pourraient être dites sur le cœur, mais ce que je veux vous retenir, c'est vraiment cette vérité, que le problème principal de l'être humain, c'est son arrogance du cœur. Et c'est ce qui est adressé ici. Les mensonges et l'autosuffisance proclamés dans notre tête. Et là, ici, s'ensuit une série de lamentations que je ne vous lirai pas. Là, on entend les lamentations des rois de la terre. « Oh, elle est détruite! Oh, malheur! Il y a ça, 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 ça! » Verset 9-10, je vous l'ai résumé. Verset 11 à 17. Les marchands de la terre. « Aïe, 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 aïe! On a perdu notre les choses qu'on pouvait vendre, tous les objets de luxure, l'ivoire, ci, puis ça, aïe, aïe, aïe! On avait des profits, puis là, tout ça tombe à l'eau. Ah, oh, que c'est... » C'est résumé. Vous comprenez l'idée? Ils chialent pour leur gain perdu. Et on a la même chose pour les pilotes, parce qu'évidemment, les cargaisons traversées à travers la mer, c'est les pilotes de bateaux qui en tiraient leur épingle du jeu. Et là, tout à coup, plus de marchandises à traverser, l'autre bord de l'océan, plus de travail, plus de gain. Et là, dans ces versets-là, au verset 11, j'ai accroché sur un mot qui m'a dérangé beaucoup. Regardez-le bien avec moi, verset 11. Lisez le verset dans votre tête et remarquez ici le problème. Quelle est la vraie valeur la plus durable? Ces gens-là sont attachés à des valeurs temporaires. Mais remarquez bien ce qu'on dit. Leur désir des marchands était de trouver des acheteurs. Verset 11. Et c'est le mot ici pour, quand on dit « Dieu nous a rachetés », mais eux autres cherchaient des acheteurs. C'est le même verbe. Alors qu'eux cherchent des profits et veulent vendre, l'agneau de Dieu qui est vainqueur, lui, de l'autre côté, on nous dit que le Seigneur nous a achetés, lui, à grand prix. Quel contraste! Alors que ceux-ci ne veulent que du profit, l'achat-revente, le Seigneur, lui, sa transaction, c'est de payer pour le rachat de nos âmes. Et il paye avec son sang, et il paye à grand prix, et il paye pour une totale liberté. Alors qu'eux nous rendent esclaves d'acheter, c'est jamais acheter pour leur bien. Alors que l'agneau est mort pour nous acheter et nous rendre libres afin de porter son nom et le chanter, ces marchands veulent que du profit. Le monde offre des produits périssables alors que le Seigneur nous offre des placements permanents que nous ne regretterons jamais. Et il en parle, entre autres, dans le chapitre 3, verset 18. Il dit, « Venez acheter de moi. Je vous offre des produits qui vont rester. Moi, mon REER, tu vas pouvoir en profiter même après que tu es mort. Ça ne va pas aller aux autres. » Parce que c'est un vrai placement. Les valeurs durables. Une place au ciel. Une position de fils. Une position de roi. Il règne dans le royaume de Dieu. Une position de pardonné. Une position d'être pris de mon fumier où ce que j'étais, la Bible nous dit, et d'être placé à côté de lui. Un placement permanent. Et non, quelque chose de temporaire. Et remarquez les sens qui sont touchés au verset 14, on mentionne les désirs de leur âme. Tout ça ici, tous ces produits étaient pour satisfaire les désirs de leur âme. Mais finalement, un désir qui n'est jamais rassasié. Hein? Ils sont toujours assoiffés de plus. Et il y en a plus, parce qu'ils ne sont jamais rassasiés, alors que notre âme est seulement rassasiée de celui qui nous a créés et qui vient remplir ce vide que celui peut rassasier, seulement lui. Beaucoup serait à dire ici, mais vous comprenez l'essentiel. Et là, dans les derniers versets, je vous les lis, tout simplement, et après, on fait notre conclusion. OK? Verset 20. À la fin, réjouis-toi. On a entendu la terre chialer, on a entendu la terre se lamenter de la destruction, entendons maintenant le plaidoyer du ciel, la joie de ce qui est céleste. Réjouis-toi de sa ruine, ciel. Et vous aussi, les saints et les apôtres, les prophètes, car Dieu, en la jugeant, dans le fond, vous a fait justice à cause de vous, de ce que vous avez subi, qu'il fait payer. Réjouissez-vous. C'est en réponse à ce que vous avez vécu qu'il exerce une justice. C'est parce qu'il vous aime, parce que vous êtes précieux pour lui. C'est un juste retour. Alors un ange puissant, saisi d'une pierre, comme d'une lourde meule, la précipita dans la mer en disant, « Avec la même violence sera précipitée Babylone, la grande cité. » Une grande cité, ça prend une grande meule pour vraiment la caler dans le fond de l'océan. Et l'idée, c'est d'une destruction totale ici. Et on ne la retrouvera plus. Et le chant des harpes, des joueurs de harpes, des musiciens, des joueurs de flûte, de trompette, on ne l'entendra plus chez lui, chez toi. Toute la musique et toute l'attirance de la musique qui ne veut pas glorifier Dieu, mais qui vient chercher nos sens, qui aimait enivrer, toute cette musique qui donnait l'impression que c'était la fête ici, alors que c'était superficiel. Tout ça, c'est parti. Aucun artisan. D'aucune art ne se retrouvera plus là. C'est pas parce que Dieu est contre les artisans, il est contre l'art ici. Et le bruit de la meule, on ne l'entendra plus chez toi. La lumière des lampes ne luira plus chez toi. La voix des jeunes épouses et sa compagne, on ne l'entendra plus chez toi parce que tes marchands étaient les grands de la terre à cette époque-là. Parce que tes sortilèges ont séduit toutes les nations. Et que chez toi, on a trouvé le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui étaient immolés sur la terre. Et t'en veux dire que tout ce qui t'arrive, c'est pour payer. Et ce que tu mérites, tu le reçois. Et c'est à cause de ce que tu as fait à ceux qui m'appartiennent. Donc, la réaction du monde, et on a ici la réaction du ciel qui est invitée. Et ici, je lis les paroles de Warren Worsby, un pasteur que je respecte bien. Il a dit ceci, et c'est vraiment à propos. La joie est centrée ici, dans cette section, sur le juste jugement de Dieu. Le fait que la justice ait été faite. C'est pas « hein, tu souffres, ça t'apprendra », c'est pas de la moquerie, c'est une réjouissance saine de la justice. Et il faut se réjouir de la justice devant les pleurs, les troubles, les angoisses que causait l'injustice. Il peut être facile pour des étudiants confortables de la Bible à discuter de ces choses dans leur maison ici en Amérique du Nord. Si vous et moi étions avec Jean sur Patmos ou avec les autres chrétiens qui souffrent, et j'oserais dire dans les 10 pays qu'on a mentionnés tantôt, auxquels il écrit, nous aurions une perspective très différente. Et notez ici chapitre 6, verset 10, où on parle encore de ces martyrs. Nous ne devons jamais cultiver la vengeance personnelle. Et la parole de Dieu est claire. Mais laissez Dieu nous venger. Mais nous devons nous réjouir pour le juste jugement de Dieu et célébrer sa justice. Amen. On résume le chapitre, puis on atterrit avec une application que j'aimerais vous partager. Donc, un résumé thématique. Le mot « grand » apparaît 11 fois. Voici comment on pourrait le résumer en quelque sorte. La femme, la grande prostituée, représente la grande Babylone, la grande ville. Et toute cette vision crée un grand étonnement chez Jean. Mais il est rassuré par un autre ange qui voit descendre du ciel avec un grand pouvoir qui vient annoncer finalement autre chose, dont la terre fut illuminée de sa gloire. Et il cria la nouvelle de la chute de la grande Babylone. Puis, un ange fort souleva une pierre comme une grande meule et la jeta dans la mer, disant, « Ainsi sera projetée Babylone, la grande ville, d'un seul coup. Elle sera sûrement plus trouvée ainsi que les grands de la terre, ces grands marchands, ceux qui avaient la richesse et qui semblaient accomplir. » Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Quelques observations en terminant. Premièrement, j'aimerais vous rappeler ici qui est la vedette. Parce que la vedette est souvent subtile et pourtant c'est la vedette. Il y a une seule vedette incontestable et c'est le seul à qui on a dit qu'il y avait victoire au chapitre 17. C'est l'agneau. Pourquoi je dis cela? La vedette du livre de l'Apocalypse, c'est Jésus. Le sang des martyrs, ben, c'est le sang des témoins de Jésus. C'est à cause de lui. C'est lui qui est au centre de pourquoi ils sont persécutés. Le vainqueur de ce dernier conflit est clairement identifié comme étant l'agneau. C'est celui qui est appelé roi des rois. Et c'est Dieu qui donne au cœur des rois de réaliser ses desseins. Dieu se souvient des injustices. Le jugement est certain et inévitable car puissant est le Seigneur qui est le juge. Le chapitre termine en affirmant que Dieu fera justice aux saints, aux apôtres, aux prophètes, en jugeant Babylone, la grande ville. Tout au long de ça ici, qui est la vedette? C'est le Fils de Dieu. C'est Dieu qui est la vedette. Et toutes les vérités qu'on apprend sur ce que Dieu fait ici, chacune des vérités est une source de réconfort pour vous et moi. Chacune de ces vérités-là, nous en avons besoin au quotidien pour retrouver le calme, pour relativiser ce qu'on voit devant nous à la télévision, pour baisser notre anxiété, pour interagir avec l'injustice, pour se tourner vers lui quand on vit toutes ces émotions-là qui ont besoin de retrouver le calme. C'est lui, la vedette. Voici deux exhortations qu'on peut lire dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans Jérémie, on dit, « Cependant, celui qui les rachète est puissant. Lui dont le nom est l'Éternel, le maître de l'univers. » Amen. « Il défendra vraiment leur cause afin de donner du repos au pays et de faire trembler les habitants de Babylone. » Il y a dans les prophéties sur Babylone de l'époque des éléments qui sont accomplis de cette époque-là, il y a 2600 ans, et d'autres qui ont été accomplis, qui vont s'accomplir plus tard sur la Babylone ultime. Et Hébreux dit oui, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Une dernière diapo avant de prier. Le récit est presque terminé, les amis. Il ne reste que le retour de Jésus du ciel et vaincre une fois pour toutes la bête et ses armées au chapitre prochain. Notre récit, à nous, n'est pas cependant terminé. Êtes-vous citoyen de Babylone ou du ciel ce matin, que vous soyez ici dans la salle ou à la maison? Pouvez-vous vous réjouir d'avoir votre nom écrit dans le livre de la vie qui est au ciel? Il reste du temps pour changer, alors qu'il dit « sortez ». C'est encore un impératif aujourd'hui. Sortez, restez pas là. De changer de citoyenneté en plaçant votre foi en Jésus-Christ. C'est de changer votre passeport terrestre pour celui qui vous scellera pour l'éternité dans la famille de Dieu. Quel passeport avez-vous ce matin? Est-ce que votre passeport est en ordre, à jour? Prions le Seigneur. Seigneur, ce matin, on a lu ta parole et en rafale, Seigneur, on a parcouru ces deux grands chapitres qui nous parlent du jugement de Babylone. Et Seigneur, dans ces vérités, je sais qu'il y a des vérités qui étaient importantes pour mon cœur à moi. Et certainement, il y a des vérités qui sont importantes pour le cœur de chacun ici ce matin, individuel. Selon ce qu'on vit individuellement, il y a des choses qui, Seigneur, tu voulais nous toucher particulièrement. Qu'est-ce que tu veux me dire ce matin? C'est quoi, Seigneur, que tu veux titiller dans mon cœur ce matin, que tu veux réconforter, que tu veux me rappeler que je sais et que j'ai besoin d'un rappel ce matin? Qu'est-ce que j'ai besoin de toi ce matin, Seigneur? Nous voulons nous approcher de toi, Seigneur, ô Dieu juste, Créateur de l'univers qui mérite notre confiance. Dieu juste qui empile et un jour la pile va tomber. Suis-je prêt, Seigneur? Suis-je dans le bon camp à suivre l'agneau de Dieu ou est-ce que je pourchasse continuellement un passeport qui n'est que terrestre, des plaisirs et des satisfactions qui ne sont que terrestres? Seigneur, tout autour de nous veut nous distraire. Aide mon cœur à revenir à toi. Évalue mon cœur présentement. Révèle à moi, Seigneur, ton évaluation de mon cœur. Où est-il accroché, mon cœur? Avec un fardeau doux et léger, avec toi? Ou est-il accroché avec un fardeau lourd, écrasant, que le monde m'offre? Seigneur, puissions-nous nous approcher de toi ce matin, faire la paix avec toi et se préparer en sortant de Babylone et en s'approchant de toi. Nous te prions dans le nom de ton Fils Jésus.